ancien doyen, professeur de théologie systématique, qui a publié tout récemment un ouvrage aux éditions Kérigma, en toute occasion favorable ou non, où on retrouve dans cet ouvrage un certain nombre d'articles publiés au cours de sa carrière dans différentes revues du monde protestant français, du monde évangélique en particulier. Et on découvre donc dans ce recueil un certain nombre de sujets abordés au travers de ces articles, que ce soit par exemple le statut de l'écriture, la question de la peine de mort au regard de la Bible, les questions aussi du rapport entre statut de l'écriture et révélation, discussion aussi autour de grands théologiens actuels. Donc des questions aussi sur le rapport du chrétien et de la politique, du chrétien et de la société. Voilà de multiples sujets qui sont abordés, tant des sujets théologiques que des sujets qui touchent parfois à des questions de société ou des questions d'éthique. Je pense notamment aussi, par exemple, à la question du sabbat qui fait souvent aussi controverse entre différents courants chrétiens. Voilà, donc vous retrouverez dans cet ouvrage les positions et les propositions de Paul Wells sur ces différents sujets. Alors ce soir, il va nous entretenir de certains aspects de ces questions. Il a choisi de présenter donc cet ouvrage et ses positions au cours de 50 minutes de présentation. Et puis après quoi, on aura, comme d'habitude, un moment de questions où vous pourrez aussi faire vos remarques, rebondir sur ce qui a été dit, au contraire, en profiter pour explorer d'autres sujets, peut-être, que Paul Wells n'aura pas eu le temps d'aborder au cours de son exposé. Donc n'hésitez pas. Et je laisse tout de suite la parole donc à Paul Wells.
Bonsoir, merci d'être venu ce soir. Et c'est un grand plaisir, une grande joie pour moi d'être là avec vous. Et je suis vraiment impressionné de vous voir aussi nombreux ce soir pour m'écouter moi. Hein? J'aurais jamais pensé une telle chose. Et ce que je voudrais faire, c'est vous présenter un peu ce livre qui est autobiographique, en quelque sorte. Je n'aime pas trop parler de moi-même, mais je suis un peu réticent et introverti de nature. Et pour moi, c'est un peu difficile. Mais je vais dire quelques mots sur mon arrière-plan. Et puis, je vais essayer de décrire l'attitude ou la position fondamentale ou l'idée qui est un peu derrière tout ce qu'on trouve dans ce livre que je présente ce soir. Alors, vous savez que je ne suis pas Cévenol, hein? Et je
Vous l'aurez
suis
cru.
pas français non plus, malheureusement. Et manque de peau, en plus, je suis anglais. Mais à moitié anglais, parce que mes parents étaient gallois. Et donc, je suis plus gallois qu'anglais, en réalité. Mais il n'en reste pas moins que le Seigneur m'a appelé après mes études en théologie en France. Et si en 1972, avant la naissance de la plupart d'entre vous ce soir, on m'avait dit, vous allez passer votre carrière en France, 40 ans, et à Aix-en-Provence, franchement, j'aurais rigolé. J'aurais dit, c'est impossible. Mais pour aller un peu derrière cette histoire de notre arrivée en France, mon épouse qui est là-bas et moi-même, en septembre, le 9 septembre 1972, il faut commencer un peu avec ma jeunesse, j'étais né à Liverpool, en Grande-Bretagne, grande cité des Beatles, du football, etc. Et j'étais élevé dans une église baptiste un peu rigide. Et quand je suis allé faire des études en langue et littérature française à l'université de Liverpool, sur le plan de la foi, je ne savais pas bien où j'en étais. J'étais un peu dans le brouillard. Et c'était le choc de la pensée non chrétienne et de la contradiction de la foi chrétienne qui m'a frappé de plein fouet. Lors de ma première année d'études là-bas. Et j'avais 18 ans et mes parents n'étaient pas du tout des gens intellectuels. Et il fallait que je trouve comment me situer. Alors je me suis posé la question, si la foi chrétienne rime à quelque chose, il faut que je sache pouvoir dire pourquoi. Et si ça ne vaut rien, il faut que je l'abandonne aussi rapidement possible pour vivre ma vie. Donc, je me suis lancé à une sorte de recherche de la vérité de la Bible.
Il y a des places devant encore, excuse-moi Paul. Il y a des places devant. Il y a plusieurs places ici devant.
Et alors, j'avais par hasard choisi de faire des études dans l'histoire de la Réforme. Et un jour, un professeur a très bien parlé sur Calvin et Luther. Et je me suis dit, ces gens-là savaient de quoi ils parlaient. Et je suis allé à la bibliothèque de l'université, j'ai repéré le commentaire sur les Galates et le traité du self-arbitre de Martin Luther et l'institution chrétienne de Calvin. Et pendant ma première année d'études, j'ai lu ça. Et j'ai failli rater mon année de français à cause de cela. Mais à la fin de l'année, je savais exactement ce que je croyais. Et depuis, je n'ai jamais eu de raison à changer d'avis à ce sujet. Et j'ai ajouté, bien sûr, mais jamais je n'ai trouvé de raison pour remettre en question les grandes idées de la foi que j'avais trouvées à ce moment-là de ma vie. Et je suis donc reconnaissant au Seigneur de cela. Après, je suis allé, à cause de mon intérêt, faire des études en théologie aux États-Unis et après, par la suite, à l'Université d'Amsterdam, aux Pays-Bas. J'étais donc parmi les premiers professeurs à Aix-en-Provence à partir de 1972 et la faculté a ouvert ses portes en 1974 et j'ai eu le plaisir, la joie de travailler là toute ma vie professionnelle et j'ai élevé trois enfants là aussi qui ont fait des études universitaires en France avant d'aller travailler ailleurs dans le monde. Et d'avoir, vous passez des générations d'étudiants. Donc, par la suite, j'avais eu les enfants de certains étudiants et même petits-enfants aussi. Hein? Alors, vous voyez, ça fait toute une vie et une vie assez passionnante, mais difficile à gérer par certains moments. Et aussi un défi, parce que c'était un combat constamment pour la foi que je croyais que nous croyions. Alors, en France, en l'année 72, quand je me suis arrivé, pour la plupart d'entre vous, à ce moment-là, la France est inimaginable par rapport à la France d'aujourd'hui. Les changements sont énormes. Et quand nous sommes arrivés là, on n'avait que la télé noire et blanc, par exemple. Et il y avait beaucoup de gens qui n'avaient même pas la télé. Il y avait Georges Pompidou qui était président, alors, qui s'en souvient aujourd'hui. Les voitures cotées, c'était des Citroën DS. Et j'avais une vieille Peugeot 403. C'était très difficile de téléphoner. Il n'y avait pas beaucoup de téléphones. Il fallait aller au bureau de poste ou depuis la faculté, si je voulais téléphoner en Angleterre chez mes parents, il fallait demander à l'opérateur de faire l'appel téléphonique et on vous rappelait une heure plus tard pour vous donner la communication. C'était vraiment un monde inimaginable. Pour aller à Paris, il fallait 8 heures de train depuis Marseille. Et quand on partait à Paris, c'était la fin de la journée et tout le monde partait avec son pique-nique dans les voitures avec des banquettes assez inconfortables. Hein. Et l'autoroute Aix-Nice n'existait pas encore. Et c'était vraiment une situation de vie entièrement différente qu'aujourd'hui. Et quand je suis arrivé là, j'étais naïf comme pas possible. Je pense que si à ce moment-là, j'avais su les combats dont j'allais faire face et les situations, dont j'allais faire face par la suite, je pense que j'aurais pris le bagage tout de suite pour repartir ailleurs. Parce que, voilà, par rapport au protestantisme français, j'avais une idée qui était peu fournie quant à sa réalité. Et quant à mes capacités aussi, j'avais une idée pas fourni du tout de ce que je pouvais faire dans cette situation. Et donc, c'était vraiment une aventure pour mon épouse et moi. Et heureusement, assez tôt, dans cette expérience, j'avais comme collègue Pierre Courtial, qui était pour moi un type qui était un mentor. Formidable. Et quelquefois, mon cerf formidable aussi. Et voilà. Donc, j'ai beaucoup bénéficié de sa présence, de sa maturité et de sa connaissance du protestantisme français. Alors, on a fondé la faculté d'Aix en 1974 et depuis le départ, la faculté d'Aix était très contestée dans le protestantisme français traditionnel parce que c'était considéré comme étant en concurrence avec Paris et Montpellier. Et du côté de Vaux-sur-Seine, nos amis à Vaux ne savaient pas très bien quoi penser de nous, si nous étions concurrents avec eux ou non. Mais assez rapidement, nous avions fait des contacts d'amitié et de collaboration avec Vaux-sur-Seine. Et les rapports ont toujours été un peu difficiles avec Paris et Montpellier et l'Église réformée de France, parce qu'ils n'aimaient pas du tout l'idée que nous avions pris le mot « réformé » dans le nom de la faculté. Et pour nous, réformer n'était pas l'Église, mais c'était la théologie essentielle, se référant aux réformateurs. Et notre projet n'était pas du tout de concurrencer d'autres facultés, mettre fin un enseignement biblique solide et cohérent, fondé sur l'inspiration des Écritures pour de futurs pasteurs et serviteurs de Dieu. Et dans ce livre, j'ai eu l'idée de prendre un article par année que j'ai écrit depuis 1972 jusqu'à 2012, ça fait 40 ans, il y a 40 articles, sur des sujets très variés. Mais il y a trois grandes préoccupations dans ces articles. La première grande préoccupation, c'est la question de la doctrine de l'Écriture. La Bible comme parole inspirée de Dieu, qui a pour nous toute l'autorité de Dieu dans toutes ses parties, qui est la vérité révélée de Dieu, qui nous permet de connaître Jésus-Christ. Et face à cette idée de l'inspiration de l'Écriture, il y avait une grande idée concurrentielle, c'est que l'Écriture représente un pluralisme de doctrines et d'idées et tout simplement une expression de la recherche religieuse de l'homme pour trouver Dieu. Alors, à partir de notre doctrine de l'Écriture, nous étions conduits à combattre ce qu'on appelle le pluralisme religieux, l'idée qu'il y a beaucoup de vérités sur Dieu et que chacun est appelé à interpréter l'Écriture pour sa part afin de trouver la vérité à son sens. C'était là, et tout au long de ce livre, c'est une grande préoccupation, défendre l'inspiration et maintenir l'inspiration de l'Écriture comme seule parole de Dieu. Le deuxième grand souci, Franck a parlé tout à l'heure d'un article sur la Bible et la peine de mort. Je ne formulerai pas exactement de la même façon ma pensée aujourd'hui à ce sujet, mais essentiellement, je pense toujours la même chose à ce sujet. Mais je n'ai pas choisi d'écrire cet article. Cet article m'était demandé en 1977 par la revue Ictus pour une contribution à la réflexion qui était partout à l'ordre du jour en France à l'époque sur le maintien ou non de la peine de mort. Et ce n'est qu'en 82, je pense, avec l'élection de François Mitterrand, qu'un de ses premiers actes, c'était d'abolir la peine de mort. Et donc, j'ai écrit cet article avant cet événement qui est arrivé par la suite dans l'histoire de la République. Et ça, c'est significatif d'autres soucis que j'avais, des soucis d'ordre éthique. Et donc, on me demandait d'écrire des articles sur le mariage, sur le rapport homme-femme, sur l'Église et la politique, etc., etc. Et donc, j'ai élaboré une certaine réflexion éthique et toutes les choses que j'ai écrites à ce sujet, loin de là, ne sont pas dans ce livre. Par exemple, j'ai écrit un article sur, à l'époque, sur la Bible et la contraception. Et j'étais très sollicité dans certaines églises évangéliques où le pasteur était censé être trop saint pour parler de la contraception et des choses sexuelles à des jeunes. Je faisais service pour ces pasteurs qui ne voulaient pas parler à leurs jeunes de ces questions de sexualité et contraception. Bon, il invitait un professeur de la fac qui pouvait venir parler à ce sujet et puis après, il s'en allait. Et le travail était fait et donc ce n'était pas eux qui avaient dit ce qu'il fallait dire, mais quelqu'un de l'extérieur. C'était très bien pour eux et j'étais très content de jouer ce jeu. Mais cet article n'est pas dans ce livre parce que ce n'est pas vraiment essentiel pour cet ensemble. Et puis, en dernier lieu, troisième grand axe dans ce livre, et puis cela à partir de l'année 2000 à peu près, c'est la doctrine sacrificielle de la croix. La croix de Jésus-Christ comme sacrifice. Parce que de plus en plus, y compris dans les milieux évangéliques, la notion de la mort sacrificielle de Jésus-Christ a été contestée et il fallait, expliquer et proposer une présentation biblique de ce que c'est que la colère de Dieu, le sacrifice de la croix, du fait que Jésus-Christ a porté nos péchés, qu'il a été compté par Dieu comme pécheur injuste à notre place et que nous, à notre tour, nous sommes comptés comme étant justes et réconciliés avec Dieu par l'œuvre de la croix. Et cette idée de la centralité de la croix a été, dans le protestantisme en général, de plus en plus contestée dans les dernières années du siècle dernier et dans les premières années de ce siècle, avec la montée des idées de gens comme René Girard, l'anthropologue français, membre de l'Académie, qui posait des interprétations non sacrificielles de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Alors, voilà les trois grands thèmes de ce livre et un peu mon arrière-plan personnel. Aujourd'hui, j'ai pris la retraite de la faculté en 2012 et j'habite avec mon épouse sur la côte sud de l'Angleterre, ce qui me permet de voyager à différents endroits dans le monde, y compris toujours à Aix-en-Provence pendant quelques années pour faire des cours. Et pour moi, c'est une grande joie depuis quelques temps de voir que la réception de la foi biblique réformée dans des pays comme la Corée et l'Indonésie. J'ai enseigné des cours dans une église en Indonésie, à Jakarta, où le dimanche, il y a 3000 personnes au culte et qui se réfèrent à l'enseignement de la réforme protestante européenne qui se disent réformée évangélique à Jakarta. Et c'est très étonnant de voir que comment cette église de Jakarta a fondé en Indonésie 50 autres églises et il y a maintenant dans cette église entre 60 et 100 000 personnes. Et cela dans un pays qui est à 80% et plus musulmans, mais où ils ont la liberté de culte et la liberté, en tant que religion reconnue par l'État, d'instruire et d'avoir des écoles même chrétiennes. Et tout cela, c'est très encourageant. Alors maintenant, je voudrais vous parler un peu du thème essentiel. Si vous voulez, ce livre est un peu dans la vitrine ce soir, mais je voudrais vous parler quelques minutes de ce qui est dans l'arrière-boutique, ce qui est derrière ce livre, qui est un peu sans fond de commerce, qui est présent partout et qui se manifeste de différentes façons dans ce livre. Et ceci concerne nous tous parce que cela concerne notre protestantisme français et son développement passé et jusqu'à aujourd'hui. Alors, le défi de la faculté d'Acc, c'est mon défi personnel, était de savoir me situer dans le protestantisme français entre un protestantisme relativiste et libéral et un protestantisme qu'on peut appeler bibliste ou fondamentaliste. Et quelquefois aussi, on a appelé la faculté d'Acc, et moi-même, j'ai été appelé fondamentaliste. Je ne le suis pas. Et pour cette raison, une grande difficulté pour moi, constamment, a été d'occuper une voie médiane entre ce protestantisme qui n'a qu'un souci du protestantisme qui reste, un petit soupçon qui reste, le protestantisme fondamentaliste pur et dur en tant que tel, de situer une ligne de crête entre ces deux écarts de la tradition qui se réfère aux confessions réformées et aux réformateurs. Et donc, constamment, j'ai essayé de maintenir une ligne de milieu entre ces deux écarts. Le fondamentalisme d'un côté, qui ne s'intéresse pas du tout à la culture, à la vie du monde, et qui se renferme dans des cocons fermés, et le libéralisme théologique relativiste qui est tellement ouvert au monde que cela termine par se fendre dans le monde et disparaître dans le monde, en quelque sorte. Et maintenir une ligne de foi biblique me semble être toujours, aujourd'hui, aussi important qu'en 72, quand on a commencé le ministère de la faculté d'Acc. Et je voudrais, pendant quelques minutes, vous parler en sept points, et ce sera assez rapide, ne vous effrayez-vous pas. Je ne vais pas vous tenir la jambe jusqu'à minuit, comme l'apôtre Paul la faisait quand Eutychus s'est endormi dans le balcon et est tombé de la fenêtre. Mais je voudrais vous parler de cette chose qui me semble avoir caractérisé le protestantisme pendant ce temps qui était ma vie de travail, et qui caractérise aussi le protestantisme aujourd'hui. Et je voudrais commencer en parlant de l'essentiel du protestantisme pour moi, et puis vous parler un peu de la situation du protestantisme aujourd'hui. En troisième lieu, la tentation du fondamentalisme ou d'être réactionnaire par rapport à tout ce qui se passe dans notre monde. Et puis, en quatrième lieu, je voudrais vous parler de l'effet Dan Brown. C'est comme ça que je l'appelle, mais je vais l'expliquer tout à l'heure. L'évolution de la foi dans les milieux évangéliques est sans contenu. La vie de l'Église, la tentation des modèles américains. Et puis, en dernier lieu, la spiritualité. Mais tout cela sera très rapide et cela représente bien les préoccupations qui animent le protestantisme qui sont derrière ce livre. La question du modèle, quelle Église? La question de la spiritualité, la question des autres religions. Tout cela anime ce livre en quelque sorte. Alors, premier point, l'essentiel du protestantisme. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'essentiel du protestantisme se trouve, pour moi, dans ses origines. On n'est vraiment protestant que si on reconnaît les cinq solas articulés par nos pères dans la foi. Et ces cinq solas, seul, sans la foi seule, la grâce de Dieu seul, Jésus-Christ seul, la gloire de Dieu seul et l'Écriture seule, la Bible seule. Et ces cinq viennent de Luther, de Calvin, de la Réformation magistrale et de nos confessions de foi. Et dans ces expressions, le mot « seul » est capital. C'est mis là par Martin Luther, intentionnellement, pour montrer que si on ajoute quelque chose à la foi biblique, on n'a plus la foi biblique, on a une autre foi. Si on ajoute quelque chose à Jésus-Christ comme médiateur, on n'a plus Christ comme médiateur, on a d'autres formes de médiation. Et l'essentiel, le fondamental, c'est la Bible seule, le sola scriptura, qui est fondamental. Et si on ajoute quelque chose à l'Écriture seule, tout le reste est modifié. Luther appelait cela le principe formel de la foi chrétienne. Et sans cette Bible seule, le sens de tous les autres sola est changé. Parce que quand l'Écriture, la Bible, est considérée comme une voie parmi d'autres voies, quand son statut est relativisé, à ce moment-là, la foi change de visage. Le Jésus-Christ n'est plus connu par la Bible. La grâce et le service de Dieu changent de définition également. Bien sûr, on peut avoir un protestantisme sociologique. Être protestant en Grande-Bretagne, c'est d'aller à l'église anglicane avant tout, avant les élections, si on est M. Cameron, qui veut être réélu. Donc, il montre qu'il est pour l'établissement anglais et les valeurs anglaises, qui, pour lui, sont grosso modo les valeurs d'un protestantisme tolérant. Hein? Mais être protestant dans ce sens n'est pas protestant dans le sens des réformateurs. Le protestantisme, sans le sola scriptura, perd sa spécificité religieuse, perd son fondement et perd sa vitalité spirituelle, même si le protestantisme continue à vivoter comme phénomène socio-culturel. Hein? On est protestant sans l'être, en réalité. Et vous savez qu'il n'y a pas de végétarien sans l'être. Il n'y a pas de végétarien non pratiquant. Et pour moi, il n'y a pas de protestants qui ne reconnaissent pas pleinement et profondément les cinq sola de la réforme. C'est ça qui définit l'essentiel spirituel de la foi protestante. En dehors de cela, on l'est sociologiquement, peut-être, mais on ne l'est plus dans le domaine de la foi. Et c'est assez tragique. Alors, le protestantisme classique issu de la Réforme se préoccupe de l'autorité de l'Écriture en considérant cette autorité comme étant supérieure à d'autres, y compris l'autorité de notre raison, l'humanisme, y compris l'autorité des Églises ou de l'Église. On entre en discussion avec les autres autorités. Mais hiérarchiquement, l'Écriture est toujours au-dessus de notre raison et doit dicter à notre pensée ce que nous pensons et doit dicter à l'Église ce qu'elle devrait faire en tant que communauté religieuse. L'Écriture, dans la perspective issue de la Réforme, propose la Bible au-dessus de la culture et de l'histoire et encourage un regard critique avec la vérité de l'Écriture de ces choses qui se passent autour de nous. Donc, hiérarchiquement, Dieu est l'autorité suprême. Par l'inspiration de l'Écriture, l'Écriture est l'autorité seconde pour moi sous Dieu. Et puis après, range toutes les autres autorités civiles, rationnelles, politiques et humaines et autres. Hein. C'est là la perspective fondamentale dans laquelle j'ai travaillé. Alors, deuxième point, la situation du protestantisme aujourd'hui, qui est assez loin de ce que je viens de décrire avec ces cinq solas. Le protestantisme français, moderniste et pluraliste des grandes églises protestantes, sur le plan théologique, est essentiellement horizontaliste, c'est-à-dire au lieu de considérer l'autorité de Dieu et de l'Écriture de façon verticale, l'Écriture et la foi est mise dans une situation horizontale. Et les références de la foi sont des références qui sont d'ordre horizontal. Par exemple, la conscience de l'individu, la tolérance, l'acceptation des autres, etc. Et c'est aujourd'hui le monde et ce qui se passe autour de nous qui fixe l'agenda des églises, souvent dites protestantes, et pas l'Écriture. Et si vous doutez d'un instant de ce que je dis, remarquez tout simplement comment une grande église protestante, comme l'église presbytérienne d'Écosse ou l'église d'Angleterre, vient de suivre les lobbies homosexuels pour reconnaître la conjugalité des personnes du même sexe comme étant tout à fait légitime. Mais ce n'est pas la doctrine biblique. Donc, on ne peut pas vraiment adopter ce genre de position sans adopter un horizontalisme qui relègue l'autorité de l'Écriture au deuxième plan et qui remplace la verticalité de la parole de Dieu par une découverte horizontale de la vérité dans la progression des valeurs historiques. Alors, ça, c'est le protestantisme des églises mainline, comme on dit aux États-Unis, ou les grandes églises historiques, comme on dit en Europe. Hein. Alors, les évangéliques, quant à eux, se félicitent très souvent d'être attentifs à garder la distance vis-à-vis du monde. Mais quelquefois, ils risquent de subir un sort équivalent pour d'autres raisons. Parce que, trop souvent, le christianisme évangélique établit une dichotomie, une séparation entre la foi et l'intelligence. On est très méfiant de la théologie et de réfléchir sur le contenu de la foi. Et on en arrive à valoriser une foi trop subjective qui fait la part belle à l'expérience, qui conduit à accueillir, sans être critique, les feelings de la société comme étant des choses que nous pouvons apprécier aussi. Très souvent, il y a dans nos milieux une carence de réflexion biblique sur les choses qui sont fondamentales. Et les églises évangéliques, très souvent, subissent la tentation anti-intellectuelle et la tentation de penser que la spiritualité est bonne, la vie est bonne, mais la réflexion biblique est un peu dangereuse et un peu suspecte. Et personnellement, je trouve que c'est un danger, parce que ça nous laisse ouvert, en tant qu'évangélique, d'accueillir les idées du monde sans y réfléchir trop longuement sur le plan biblique. Et si aujourd'hui, par exemple, la cohabitation entre jeunes en dehors du mariage commence à se faire accepter dans certaines églises évangéliques, c'est sans doute à cause d'une absence de réflexion biblique sur ce que c'est que la nature du mariage biblique et du couple dans une perspective chrétienne. Nous acceptons et nous suivons trop facilement les idées du monde, faute d'avoir une réflexion biblique solide sur ces sujets. Et ça, c'est un danger pour les églises évangéliques en général. Et vous voyez, je trouve à l'heure actuelle que ça va très vite dans les milieux évangéliques. Il y a des pratiques qui déjà commencent à se faire reconnaître, à se faire accepter, qui, il y a 30 ou 40 ans, aurait vraiment fait peur à un père de la théologie évangélique en France, comme Jules-Marcel Nicole, par exemple. Voilà. Alors, il y a aussi une autre tentation, troisième point maintenant, la tentation d'être réac ou d'être réactionnaire. Et cette tentation remplace la Bible seule par seule avec la Bible. Et c'est une attitude qui existe dans certains milieux protestants que j'ai fréquenté et qu'on peut trouver. Et quelquefois, la faculté d'Aix, et sans doute aussi la mission de Timothée, a été accusée d'être fondamentaliste ou réactionnaire. Nous avons entendu de telles choses. Et ce n'est pas le cas. Il y a une différence entre la Bible seule et seule avec la Bible, ou le biblicisme, ce que je vais essayer d'expliquer. Alors, vous voyez, les tentations des extrémismes sont très grandes. Tellement la société ambiante autour de nous est en désarroi. Et le danger des fondamentalismes est partout, y compris dans le protestantisme. Et certains essayent de trouver un refuge contre le relativisme des grandes églises dans une foi évangélique qui est super bétonnée, un biblicisme pur et dur, qui, malgré les apparences, n'est pas le sola scriptura réformée de la réforme. Le biblicisme ou le fondamentalisme qui caractérise certains milieux ou personnes, à la différence de la sola scriptura, prétend se limiter à la Bible. Et vous avez entendu ce discours. J'ai la Bible, c'est tout ce qu'il me faut. Ou des gens qui disent, nous n'avons pas besoin d'une confession de foi, nous avons la Bible et ça nous suffit. Dans l'église où je vais, en Grande-Bretagne, je fais un samedi matin de théologie et café pour des gens qui vont venir. Il y a un monsieur un peu âgé, c'est-à-dire plus âgé que moi, il faut le faire, il pointe à ce samedi matin en me disant, j'ai mon arme de combat contre la théologie, c'est la Bible du roi Jacques, hein? J'ai la Bible. Et vous voyez, son idée, c'est que si on a la Bible, on n'a pas besoin de la théologie. La Bible seule suffit pour tout et contre tout. Et cette prétention de se limiter à la Bible se transforme inconsciemment en une forme d'individualisme. Moi et ma Bible, je suis tout seul avec ma Bible, et avec ma Bible, moi, je me détermine et je me défends contre tout. Hein? Et voilà, ça ne me fait absolument rien, ce que saint Augustin a dit, ou ce que Calvin a dit, ou ce qu'a dit Martin Luther, ou ce qu'a dit n'importe quel autre. Ce qu'il pense important, c'est que j'ai pour moi tout ce qu'il faut dans la Bible qui est devant moi. Hein? Et ce genre de personne a tendance à vous, non pas à discuter avec vous, mais vous assommer avec des coups de versets bibliques. Et bien sûr, un verset biblique termine toujours toute discussion. Et suppose naturellement que la personne qui vous cite le texte biblique, lui seul a la bonne interprétation dans sa Sainte Trinité de ce que veut dire ce texte. Hein? Et cette prétention de se limiter à la Bible est paradoxalement des plus modernes et s'accommode de comportements et d'habitudes typique de ce que les sociologues appellent l'hypermodernité. Remarquez comment fait ici l'État islamique aujourd'hui. Il se limite au Coran seul et au dernier califat qui vient d'être proclamé et établi dans l'État islamique indépendant. Mais en s'érigeant contre tout le monde, avec le Coran seul interprété par le calife, ils utilisent pour faire la propagande tous les réseaux d'Internet et ils sont d'une extrême puissance sur Internet. Pour attirer d'autres personnes. Et ils ne sont pas du tout réticents d'utiliser les formes d'armement plus modernes pour avancer la cause religieuse. Et le fondamentalisme s'allie très bien avec le monde moderne et le combat terroriste par Internet dans le monde moderne. C'est assez terrifiant tout cela. Pour les biblistes, un gouffre se creuse entre la foi et la culture au point que la foi les distance de toute culture et ils bétonnent la foi avec un discours pieux qui curieusement peut s'adapter à la culture environnante. On peut être fou de Jésus et en même temps fou du monde moderne avec toutes ses possibilités de communication et de consommation. Et ils ont en plus un esprit individualiste qui le fait dire que la seule lecture de la Bible est la bonne parce que le Saint-Esprit le leur a dit, peu importe les autres. Alors, tout comme le protestantisme des églises de multitude se délite dès qu'il abandonne la spécificité du sola scriptura, la foi évangélique, quand elle devient fondamentaliste, succombe aux tentations d'un biblicisme dur et de l'individualisme. Cela peut paraître très spirituel, mais aborde en même temps des attitudes très mondaines qui camoufle et justifie un langage pieux face à ce contexte. Alors voilà, une autre forme de foi protestante que j'ai toujours essayé d'éviter parce que je pense que la tradition chrétienne est importante et la discussion entre la foi chrétienne et les autres autorités inférieures est importante. Alors, l'effet Dan Brown, maintenant, vous vous demandez ce que c'est. Je développerai cela. Dan Brown, vous savez, Ange et démon, et le Code Da Vinci, c'est cet auteur populaire que dans les films ont été des succès de Hollywood, etc., qui prétend réinterpréter le christianisme. Et l'effet Dan Brown, c'est de faire fondre la foi chrétienne dans le contexte des religions du monde pour faire du christianisme tout simplement une religion parmi les autres. Alors, le déclin du christianisme en Occident est dû à la mise en question de la Bible reconnue comme parole de Dieu. Je pense. Et en premier lieu, la critique historique de la Bible a fait un travail de démolition. Et ce qu'ont dit les critiques bibliques, libéraux, a été repris dans les émissions, comme les émissions sur Jésus qu'on a vu sur Arte, d'ici quelques années, et dans les grands périodiques comme Le Point ou L'Express, qui reprennent la critique historique de la Bible pour affirmer que David et Salomon n'ont jamais été rois en Israël et que l'histoire d'Israël était bien différente que l'histoire que la Bible raconte. À propos de Jésus, nombreux sont ceux qui estiment qu'on peut savoir très peu de choses de Jésus. La critique du Nouveau Testament, Rudolf Bultmann, pendant les années 40 du siècle dernier, a dit « On ne peut rien savoir de Jésus réellement, sauf qu'il y avait un homme qui s'appelait Jésus, qui est mort sur une croix. » Mais c'est peut-être tout ce qu'on peut savoir. Et donc, on a dans la littérature populaire, et cela se répand dans la société globale, l'idée que la Bible n'est pas fiable sur le plan historique. La Bible est poussée en dehors du champ de l'histoire, dans le domaine subjectif du symbole ou du mythe, et n'est pas prise comme une référence historique. Et en témoignant à des gens, de temps en temps, dans la rue, avec notre pasteur en Angleterre, nous rencontrons très fréquemment la réponse quand nous posons aux gens la question « Est-ce que vous avez entendu parler de Jésus-Christ ?» On nous répond « Tout cela, c'est mythologique. » Et c'est l'impression que donne la télévision, que donnent les médias, que tout cela, c'est les contes de fées pour enfants. Mais il y a un fait nouveau qui apparaît récemment, il y a quelques années. Si la critique de la Bible a travaillé de l'intérieur pour démolir la Bible de l'intérieur, une nouvelle critique est apparue de l'extérieur. Et cette critique dit que le vrai visage de Jésus-Christ se trouverait non pas nécessairement dans les textes de notre Nouveau Testament, mais dans d'autres textes à peu près de la même époque que l'Église a censuré et a rejeté. Et ces textes présentent un Jésus beaucoup plus éclectique qui prendrait sa place aux côtés des grandes figures des religions du monde. Et ainsi, le Jésus de la Bible n'est pas le seul Jésus possible. Il y a tous les Jésus qui sont racontés dans ces autres évangiles qu'on appelle gnostiques ou autres. Et ainsi serait ouvert le chemin vers une spiritualité universelle où Jésus n'est qu'encore un prophète ou un moraliste enseignant quelques préceptes d'ordre spirituel. Alors que les autres évangiles, à côté de nos évangiles, entre le deuxième et le quatrième siècle, sont placés avec nos évangiles. Et le canon de l'Écriture, c'est comme si on pouvait ouvrir la Bible pour ajouter après tous ces textes qui ont vu jour entre l'année 200 ou 150 et l'année 400 comme témoignage d'un Jésus qui est bien différent que ce que nous avons dans le Nouveau Testament même. Et le résultat de tout cela, de cette critique, de l'effet Dan Brown, qui veut dire la vérité n'est pas seulement dans, de Jésus n'est pas seulement dans la Bible, mais en dehors de la Bible, veut dire que la Bible est au même niveau que les autres textes religieux. Tous les chemins mènent à Jérusalem et toutes les religions vont au paradis. Et l'effet Dan Brown contribue à faire croire que ce que l'on connaît de Jésus par la Bible est peu crédible et que la vérité au sujet de Jésus est sans doute ailleurs. En tout cas, cette vérité n'est pas unique, mais plurielle. Le relativisme moderne, avec sa spiritualité diffuse, a des correspondances dans le monde antique. Et en définitive, la vérité n'est nulle part et chacun est isolé dans sa recherche spirituelle. Et il y a ici, en dernier lieu, le refus de considérer la vérité historique du texte biblique. Paradoxalement, la science, qui s'intéresse à tout, peut-être peut devenir une entreprise de dissimulation du caractère historique du texte biblique. J'étais très étonné il y a quelques semaines. Je suis allé au British Museum à Londres avec mon épouse et nous avons visité les salles de l'Antiquité concernant les royaumes Mèdes et Perses à l'époque de Nabucodonosor. Et il y avait dans ces présentations aucune référence au texte biblique à ce sujet. Dans les descriptions historiques des panneaux. Et la Bible est la plus grande source de connaissance de ces rois. Et les textes bibliques sont les sources les plus proches historiquement de ce que nous savons de ces rois, en dehors de leurs propres décrets royaux. Et pourquoi les écarter de la discussion scientifique? Et il y a une simple réponse à cela. On suppose, de facto, à cause de l'influence de la critique théologique libérale, que ces textes sont mythologiques ou inventés. Alors, ils ne sont pas. Archéologiquement, ces textes sont démontrés être des textes historiques. Ainsi en est-il pour Jésus aussi. Nous avons peu de matériaux qui nous permettent de connaître Jésus en dehors des évangiles bibliques et en dehors de Flavius Joseph, l'écrivain, l'historien juif, et Pline, l'historien latin. Tous deux se réfèrent à Jésus et à sa crucifixion et à la foi des chrétiens en la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et les textes bibliques qui sont écrits dans quelques dizaines d'années après la résurrection de Jésus nous donnent presque la source la plus complète de notre connaissance du monde juif romain à l'époque de Jésus et les sources les plus sûres à ce sujet. Mais on refuse systématiquement de considérer ces textes comme ayant une valeur historique, même si les faits historiques s'accordent entièrement. Prenez le cas de l'histoire d'Hérode qui est mangé par les vers dans le livre des Actes. La même histoire se trouve exactement dite la même chose avec deux ou trois points additionnels dans un document antique. Et c'est la même chose qu'on trouve dans les Actes des Apôtres. C'est une confirmation incroyable de la réalité historique de la Bible. Alors, le visage de Jésus dans les évangiles du Nouveau Testament est loin d'être flou et apparaît comme celui de quelqu'un en rupture avec les spiritualités de son époque et les spiritualités de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il prédit sa propre mort et il va à sa propre mort, il prédit sa propre résurrection et il ressuscite. Et cela pour accomplir la volonté de son Père. Hein? Ce n'est pas une autre figure spirituelle de l'humanité. C'est quelqu'un qui a un parcours tout à fait unique, mais qui est historique, qui n'est pas du tout mythologique. Il est urgent aujourd'hui d'avoir une pleine conscience de l'importance de la fiabilité des évangiles de l'Église. Et je ne crois pas de façon chrétienne, parce que je crois que l'Écriture est vraie, je crois parce que l'Écriture est vraie. C'est parce que la Bible est vraie que je crois. Et non pas le contraire. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier dans le protestantisme. Alors, ce double mouvement intérieur et extérieur, effectué par la critique, a modifié l'image de la Bible et ce qu'on attend. Les chrétiens, en particulier les protestants, sont de moins en moins soumis à l'autorité d'une église-institution et de son enseignement confessionnel. Et il en résulte l'adoption d'une foi soft qui s'adapte au climat ambiant, une foi qui oublie la vérité fondamentale historique de la Bible. Et ainsi, le contenu de la foi se trouve modifié. La foi, selon nos ancêtres, était connaissance, reconnaissance et certitude. Pour nous, aujourd'hui, trop souvent, la foi se réduit à une certitude personnelle et individuelle, en oubliant les aspects de connaissance et de reconnaissance. Et c'est pour cette raison que le contenu de la foi chrétienne est comme un peau de chagrin qui se rétrécit progressivement et qui, loin d'être ce que la Bible affirme, revient à ce que je peux croire. Et c'est un danger pour les évangéliques aussi d'aller dans ce sens. Alors que nous sauterons le sixième point parce que le temps passe et on dira un mot pour terminer de la spiritualité. Le résultat de la diminution du contenu de la foi dans le protestantisme est l'établissement d'une spiritualité de valeur personnelle Et ce qui compte est moins ce que la Bible demande de moi sur le plan spirituel que ce qui est considéré valorisant pour moi. Et donc, ce qui est agréable, ce qui est valorisant, a tendance à devenir une valeur sur le plan spirituel au lieu de quelque chose qui est enraciné dans le contenu de la foi. Et dans cette perspective d'une spiritualité qui est valorisante, c'est spirituel parce que ça marche, c'est spirituel parce que ça me fait bien sentir. L'expérience spirituelle, dans cette perspective, devient un produit intéressant que l'Église propose comme un objet de consommation aux individus qui sont attirés par ce qui est spirituellement valorisant. Le christianisme, progressivement, perd son fondement objectif et prend place comme une autre parmi les nombreuses formes de spiritualité présentes à nos contemporains. Le choisir, plutôt que la sagesse du Dalai Lama, par exemple, relève tout simplement de là où je suis et de ma préférence individuelle. Et donc, nos églises courent très souvent le danger de remplacer une spiritualité bibliquement fondée par la spiritualité de ce qui marche et de ce qui m'agrée, de ce qui est agréable. Et je pense que c'est pour cette raison que les évangiles de la prospérité, les évangiles de la bonne santé, avant tout, c'est pour cette raison que ces formes de spiritualité marchent très fort dans certains milieux. Et je connais des milieux où la chose presque la plus importante dans la vie spirituelle, c'est de sentir bien et d'être guéri de tout ce qui peut nous toucher physiquement et de tout ce qui peut être un mal. Et ici, c'est vraiment un détournement de la foi de ses fondements bibliques. Ces nouvelles spiritualités risquent de dégrader le contenu même de la foi et malgré la grande vitalité de certains milieux, le risque final, c'est l'autodestruction, je pense. L'identité de la foi évangélique et par implication du protestantisme dépendra des capacités dont on fera preuve face à cette situation pour réagir et pour maintenir avec lucidité ces distances par rapport à l'esprit de notre siècle, et cela sous l'autorité de la Bible et par la conduite du Saint-Esprit dans tous les domaines de la vie individuelle et collective. Et voilà, c'est à peu près cela, ce défi que j'ai essayé de relever dans ces différents essais dans ce livre. Voilà, merci.
Bien, alors merci Paul de nous avoir introduit dans ton parcours personnel, qui nous fait connaître un peu plus, au-delà du professeur, le personnage qui a découvert la foi à Liverpool au travers de l'étude des textes français, des grands textes de Luther et des Calvin. Et aussi merci pour ce parcours dans la foi protestante aujourd'hui et avoir accepté de dresser un tableau difficile au fond de ce protestantisme actuel qui est sujet et qui est tenté par des dérives tant du côté du libéralisme que d'un fondamentalisme, comme tu l'as décrit, qui est tout aussi dangereux pour le monde évangélique français, en rappelant que la foi n'est pas simplement une expérience, comme on le croit souvent, hein, mais tu l'as très justement dit, la foi est aussi un contenu, elle a un contenu, et ce contenu, évidemment, renvoie au texte biblique. Voilà, je suppose que vous avez sans doute des questions par rapport à ce qui a été dit. Peut-être avez-vous des remarques, des points que vous voudriez aborder. Donc on a encore quelques minutes. Je vous propose d'avoir 10-15 minutes encore de remarques, questions, débats entre nous. Donc profitez-en, puisque Paul après repart à Aix, puis en Angleterre. Donc pendant qu'on l'a sous la main, il faut en profiter.
Ça m'est égal si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Oui, Charlie, bonjour.
Beaucoup de phénomènes aujourd'hui sont mondiaux. Donc, quand on voyage, on retrouve les mêmes attitudes, les mêmes réactions, etc. Cependant, il y a quand même des spécificités qui demeurent. Et avec le recul que tu as, notamment de par tes voyages, comment tu décrirais en peu de mots la spécificité de la France? Alors, qu'est-ce qui peut-être la sert? Quels sont les quelques atouts que nous pouvons avoir en tant que Français, compte tenu de notre passé, etc. Mais aussi, quels sont les écueils auxquels nous sommes exposés, les obstacles que nous pouvons rencontrer en tant que Français, qui n'existent pas forcément à l'identique ailleurs?
C'est une question très vaste et très difficile. Premier commentaire, je pense que malgré la spécificité française, de la culture française, et, on nous a beaucoup éduqués dans la perspective de l'exception française, dans beaucoup de domaines. Et mon expérience à l'heure actuelle me conduirait à parler non pas de l'expérience française, mais l'expérience française dans le contexte européen. Et je suis très frappé parce que je suis allé prendre la retraite en Angleterre il y a 2 ans, que le climat social en Angleterre est exactement le même que le climat social en France. Les grandes questions sont les mêmes questions. Il y a la même désaffection par rapport à la classe politique dans les deux pays. Il y a le même souci de la retraite et de l'avenir et de l'emploi dans les deux pays. Il y a le même montée de l'athéisme et de l'agnosticisme. Ici en France, vous avez vos Luc Ferry, etc. Nous avons nos Dawkins et compagnie. Vous avez vos scientifiques agnostiques. Nous avons nos... C'est exactement la même chose. Mais il y a une grande différence. En Angleterre, on est beaucoup moins pudique au sujet de la religion et on tape ouvertement sur le christianisme à la télévision, à la presse, et même c'est très choquant de voir que certains meneurs culturels en Angleterre traitent le christianisme de tous les noms d'oiseaux imaginables, même sur les antennes de télévision. Hein? Et ce qu'on peut entendre est assez choquant parce que le fait qu'il n'y a pas de discours public religieux en France protège un peu de cela, sauf dans certains milieux restreints. Mais ce n'est pas dans la place publique comme chez nous. Il y a là une différence. Et je me suis rendu compte que pour le christianisme en France, c'est aussi un grand avantage. La laïcité a du bien aussi. D'une certaine façon, dont je ne me suis pas rendu compte avant d'aller en Angleterre. Et c'est vrai que la laïcité a l'avantage de donner une aire de liberté pour toutes les religions et une certaine protection de la liberté de conscience. Et je ne pense pas qu'il faut mépriser les avantages de la laïcité. Maintenant, c'est vrai que la laïcité peut devenir une laïcité intolérante aussi. Et il faut se méfier de cela. Mais je pense que la vraie laïcité, plutôt d'avoir une hypocrisie d'un christianisme apparent, comme en Angleterre ou en Allemagne, où on se dit chrétien, mais on ne l'est pas du tout, c'est mieux d'afficher la laïcité de l'État et de laisser les religions leur espace de liberté. Alors, ayant dit cela, nous vivons une situation européenne et la situation a pour moi deux caractères, que ce soit en France ou l'Angleterre ou l'Allemagne ou les Pays-Bas, et j'ai observé aussi ces pays et la Suisse, un peu l'Espagne où habite ma fille, et dans tous les pays, je constate que les églises établies agissent comme si elles étaient toujours majoritaires dans la société, alors qu'on est devenu minoritaire. Il n'y a que peu de croyants chrétiens en réalité. Nos sociétés sont entièrement déchristianisées et au lieu d'adopter le discours de la réévangélisation et de la mission dans nos pays, nos églises agissent, que ce soit l'Église catholique en France ou l'Église anglicane en Angleterre ou l'Église protestante unie de France, agissent comme si c'était toujours de grandes puissances, alors qu'elles sont devenues tout à fait impuissantes. Et la majorité de la population est tout à fait agnostique ou non informée sur le plan chrétien. Et encore, c'est pire parmi les jeunes, que ce soit en Angleterre ou en France, il y a une ignorance quasi totale du fait de la religion parmi les jeunes dans les deux pays. Et au lieu d'avoir cette attitude de l'Église établie qui est majoritaire et que nos pays sont des pays christianisés, il faut que les Églises adoptent carrément, si le christianisme va survivre, une attitude d'évangélisation et de mission. Et la seule façon de maintenir le christianisme dans un pays, c'est d'avoir des conversions au christianisme. Et on a perdu de vue cette perspective dans les églises même. Et on s'occupe du petit rang-rang ecclésiastique et on oublie la vocation missionnaire de l'Église en quelque sorte. Et puis, la deuxième chose que je dirais qui est en parallèle dans les deux pays, c'est le fait que les chrétiens sont devenus vraiment minoritaires et il faut que nous réfléchissions à comment, à partir d'une situation de minorité, agir en tant que chrétien comme minorité dans notre société. D'autres minorités ont beaucoup de réussite. Regardez la réussite de la minorité gay ou la minorité écologiste. Ils sont arrivés avec des actions à changer la vie et la perception des gens. Il y a une vingtaine d'années, on pensait que les gens écolos, c'était un peu coucou la praline. Hein? Et maintenant, tout le monde respecte les écologistes. Hein? Et ils sont arrivés à faire évoluer l'opinion de la population générale par rapport à leur façon de voir les choses. Et il faut que nous réfléchissions comment agir pour que les gens commencent à envisager le christianisme non pas comme quelque chose qui est passé et qui est morne et triste et qui est anti-plaisir et anti-vie, mais comme quelque chose qui est passionnant et qui apporte la joie dans la vie. Et donc, il y a là, je pense, quelque chose qui devrait réactiver notre pensée. Et en dernier lieu ici, et en comparaison avec la Corée ou avec l'Indonésie, par exemple, je trouve que en France, en Europe en général, nous sommes un peu pessimistes par rapport à la foi chrétienne. Et nous partons un peu avec des attitudes défaitistes, quelquefois. Quelquefois, nous nous réfugions dans des perspectives eschatologiques pas très légitimes. Et on dit, regardez autour de nous, personne ne se convertit, nous sommes dans les derniers jours, presque pas la peine de faire quelque chose parce que Jésus va revenir après-demain. Donc, croisons les bras, attendons le retour de Jésus. Regardez, il y a l'Antichrist qui se lève en Syrie, il va s'attaquer à Israël, c'est la fin pour après-demain. Et donc, voilà, le retour de Christ, c'est pour bientôt. Donc, nous sommes pessimistes en attendant cela. Et cela nous sauvera de notre détresse. Alors, quand je vais en Corée, en Indonésie, je ne trouve pas ce pessimisme. Je trouve que les gens qui, là, sont des minorités chrétiennes dans la société, sont très actifs et très entreprenants pour la foi chrétienne. Et ils sont optimistes. Et personne là que je connais en Indonésie ne parle de du retour de Jésus pour après-demain. Ils sont toujours en train de parler de l'année prochaine et des projets qu'il faut avoir pour évangéliser dans leur pays plus loin l'année prochaine. Et il n'y a pas ce discours eschatologique pessimiste que nous avons quelquefois. Et nous nous cachons en cela et nous nous contentons de dire passons le temps et espérons que le Seigneur va revenir plus tôt que prévu. Et je trouve que cela aggrave notre pessimisme plutôt que de le... Voilà. Il y a sans doute beaucoup d'autres choses à dire, mais...
C'est intéressant, mais c'est peut-être le piège aussi de cette vieille tradition européenne et française d'être au centre de tout. C'est-à-dire qu'on pense d'un seul coup en européen, en français, on est très européano-centré, et c'est intéressant d'avoir ce regard décentré justement sur la Corée ou les Philippines et l'Indonésie, parce qu'on se dit que finalement, si Jésus doit revenir, il doit parler de la même manière à toutes les églises sur la terre.
Alors, vous voyez, je pense honnêtement entre nous, sur le plan économique aussi, je pense que le centre du monde, d'ici 50 ans, sera le Pacifique, pas l'Europe. Avec la Californie, le côte est de l'Amérique du Sud, l'Australie, Indonésie, Malaisie, Chine, Corée, Japon. Ça, c'est le nouveau centre économique de notre monde. Et c'est étonnant. C'est en Chine que l'Évangile croît incroyablement à l'heure actuelle. Nous avons que peu de renseignements, mais à l'heure actuelle, il y a une explosion de l'Évangile en Chine. Et en Indonésie, l'Évangile croît aussi. Et j'ai l'impression qu'avec cette croissance économique orientale, il y a aussi une croissance énorme de l'Évangile. Et ce n'est pas étonnant si on voit des missionnaires chinois et coréens en Afrique dans les décennies qui viennent. Alors que nous sommes en décroissance économique et démographique ici en Occident. Et je me demande si notre décroissance au niveau spirituel n'est pas le reflet de l'absence de vivacité et de développement dans nos sociétés. Ayant dit cela, que devons-nous faire puisque nous sommes dans cette situation. Je pense que un de mes amis m'a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien quand la marée est en train de s'éloigner? Qu'est-ce qu'on fait chez nous quand ces marées passent? Pour le christianisme, nous ne pouvons pas faire revenir le marée comme le roi danois. Et je pense qu'il nous faut être fidèles au contenu de l'Évangile. Je pense qu'il faut être fidèle dans l'intercession et il faut être fidèle dans la construction de communautés, de vie spirituelle et d'entraide spirituelle, non pas sur le plan international, mais sur le plan local. Parce que c'est sur le plan local où il faut que les gens revivent et où il faut que les gens trouvent l'Évangile. Et c'est une vie d'église locale et une obéissance locale, une vraie spiritualité pratiquée localement que nous pouvons vraiment prier pour le réveil. Hein? Aussi, que le Seigneur ait miséricorde de nous et qu'il ne nous oublie pas. Nous savons que dans notre christianisme en Occident, il y a déjà eu des périodes de marée basse. Et c'est jamais définitif. Il y avait toujours eu un renouveau après le déclin. Et il faut attendre et espérer et prier le Seigneur pour qu'il nous accorde ce renouveau. Et je ne vois pas ce que nous pouvons faire d'autre. Ce que le Seigneur nous demande, c'est la fidélité dans le jour de petites choses.
Bien, écoutez, le temps est bien avancé. Pour ceux qui souhaitent continuer la discussion avec Paul Wells, vous pourrez vous approcher de la table. Vous pourrez aussi découvrir son ouvrage, donc en toute occasion favorable ou non, je le rappelle, hein, qui rassemble une quarantaine d'articles de Paul Wells. Je vous précise aussi que les prochains rendez-vous de la librairie, ce sera ici, le prochain rendez-vous, le 29 mai, nous recevrons Henri Blocher, qui est un autre théologien évangélique français, doyen honoraire de la faculté de Vaux-sur-Seine et qui viendra nous parler de son parcours en tant que théologien. Ce sera donc à 20h30 ici et dans le cadre du cycle de conférences, le prochain rendez-vous ce sera le 5 juin à la médiathèque d'Alès à 18h30 et nous parlerons d'un personnage et d'un destin absolument extraordinaire, le destin d'Elino, ce Charentais qui a quitté la France, qui est allé trouver refuge comme mousse en Amérique, dans les colonies anglaises, qui est devenu capitaine de bateau, qui a été, alors qu'il commandait son premier navire, arraisonné par un corsaire français, renvoyé en France à Saint-Malo, fait prisonnier, envoyé dans les galères, prisonnier au château d'If, où il se convertit véritablement, et puis il est libéré grâce à l'intervention de l'Angleterre. Il retourne en Amérique du Nord, et en Amérique du Nord, il fonde la première école pour les enfants d'esclaves noirs. Un destin absolument extraordinaire, que je vous invite à venir découvrir avec le professeur Poton, Didier Poton, qui viendra nous parler à la médiathèque d'Alès, donc le 5 juin à 18h30.
Ça peut être un film, cette histoire.
Tout à fait, oui. Vous pouvez retrouver tout le programme de la librairie ici sur ce catalogue. N'hésitez pas à vous servir. Je vous remercie à tous pour votre attention, pour votre présence et on vous souhaite un bon retour.